Voilà, est-ce que vous allez bien? Alors c'est en rapport, évidemment, ma question est en rapport avec le message. Vous allez bien? Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, c'est parce qu'en fait, il était très important en ce dernier culte de l'année 2024, c'est de faire un bilan de santé. Alors, moi, j'aime pas trop ça, les bilans de santé, mais c'est quand même important de pouvoir le faire pour voir si tout va bien. Ce qui est très important, c'est que dans la Bible, dans la parole de Dieu, il nous est constamment, on est constamment encouragé à pouvoir faire un bilan de santé pour voir si tout va bien. Et on va voir ensemble, donc, faire un bilan de santé. Et souvent, vous le remarquerez, d'ailleurs, vous en avez l'habitude, c'est que quand on va arriver au réveillon du 31, à partir de minuit, et puis les jours qui vont suivre, on va se souhaiter une bonne année. Et souvent, ce qu'on rajoute après, et surtout la santé. Que Dieu fasse que nous soyons trouvés avec cette santé spirituelle, que nous allions bien, de mieux en mieux, que nos progrès soient évidents, alléluia. Mais pour cela, on a besoin de faire un bilan. Et j'ai pris cet exemple des organes vitaux que nous avons, chacun d'entre nous, et voir à quoi cela peut se rapporter dans la parole de Dieu pour voir si tout va bien. Et on va lire le psaume 26, donc en entier. Si je vous ai dit qu'on allait lire un psaume en entier, c'est le 119. Certains se seraient inquiétés en disant « à quelle heure on va manger ?» Ne vous inquiétez pas, c'est le psaume 26, il n'y a que 12 versets. « Rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans la vérité, dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Et nous disons Amen pour la parole du Seigneur. Amen. Ici, nous voyons que David est un homme selon le corps de Dieu. On le sait, il a été qualifié d'homme selon le cœur de Dieu. Et moi, je dis que quand c'est Dieu lui-même qui dit que voilà un homme selon mon cœur, alors nous devons plonger nos regards. Et ici, nous avons lu ensemble qu'il va dire au Seigneur, « Seigneur, sonde-moi. » Sonde-moi, c'est-à-dire, je te permets de pouvoir regarder au fond de mon cœur si tout va bien. On a lu ensemble que pour lui, il parle de cœur, il parle de rein, et avec une certaine signification. Et dans ces organes vitaux que le Seigneur nous a donnés, le premier... la première chose qu'on veut se focaliser ce matin, pour voir si tout va bien, est-ce qu'au niveau des pensées, comment ça se passe? Donc la tête, la pensée, alors, je regardais juste par curiosité, vous savez, ou pas, combien de pensées dans une journée? 6000 pensées dans une journée. Alors il faut les trier, parce qu'elles ne sont pas toutes bonnes. Elles ne sont pas toutes mauvaises, merci Seigneur. Et on s'aperçoit que quand ces pensées sont là, les bonnes, les mauvaises, et notamment elles ont été répertoriées, il y a quelqu'un qui les a répertoriées comme cela, il y a 4 catégories communes de pensées qui peuvent être toxiques. Ce sont celles qui sont inspirées par la négativité. Vous avez remarqué ou vous côtoyez des personnes où vous n'osez pas leur dire comment ça va? Parce que quand vous leur dites comment ça va, elles vous font toute la liste, J'ai ceci, j'ai cela, et ça, ça va pas. Et on a du mal à se focaliser finalement sur les choses positives. Et ça, c'est le propre du cœur de l'homme. Donc la négativité, la peur, l'étroitesse et la critique. Voilà ici les pensées qui peuvent venir. Dans la parole de Dieu, et notamment dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4 et le verset 8, regardez ce que nous dit ici l'apôtre. Il nous dit « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Alors on dit « Amen », mais est-ce que c'est sûr que c'est là, constamment, tout le temps? Évidemment que non. Parce qu'il y a des pensées qui sont là, tant que nous sommes ici-bas, bombardés constamment. Et l'ennemi le sait très bien, c'est qu'à un moment donné, même dans nos pensées, va essayer de nous atteindre. Mais on sait que dans cette pensée, avoir cette tête, comme on dit, sur les épaules, savoir bien des choses. Ici, il est dit, l'apôtre dit, ben en fait, toutes ces choses pures, aimables, tout ce qui mérite l'approbation, vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées, parce que ça va permettre à ce que nous puissions nous tourner vers le Seigneur. Parce que face à ces choses-là, je ne sais pas vous, mais moi je me dis, mais Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de toi. Seigneur, mon Dieu, parce que, évidemment, les pensées ne sont pas toujours bonnes, mais on a besoin, Seigneur, mon Dieu, que ces choses soient renouvelées en chacun et chacune d'entre nous. On sait que la tête, la pensée, c'est le lieu de la mémoire. Et souvent, on trouve dans la parole de Dieu, et d'ailleurs, ce matin, on a pris le pain et le vin, en nous rappelant. Pourquoi, en fait? Pourquoi on prend le pain et le vin? Si on ne s'en est pas rappelé, en fait, on est passé à côté. Et le Seigneur, il va le dire, quand je m'en serai allé, voilà, chaque fois que vous allez vous réunir, vous ferez ceci en mémoire de moi. Et c'est un rappel que Jésus a donné son corps, que son sang a coulé à la croix du calvaire pour chacune de nos vies, afin que nous ne soyons pas de ceux et de celles qui oublient toutes ses bontés. Et ça, encore une fois, c'est le propre de l'homme, qui a tendance à oublier les bontés du Seigneur. Dieu est bon envers chacun d'entre nous. Il l'a été, il le sera encore et toujours, parce que c'est dans sa nature d'être bon avec nous tous. Amen. Oui, la tête, c'est les pensées, le lieu de la mémoire. La mémoire, elle est précieuse. Alors, certains disent, mais moi, j'ai pas de mémoire. Ça dépend pourquoi. C'est toujours pareil. Ça n'est pas, par quoi on est motivé, mais en tout cas, la mémoire est là et c'est quelque chose de précieux. L'apôtre Paul, encore lui, il va rappeler au jeune Timothée, parce qu'il semblerait qu'il avait fixé ses regards ailleurs que sur le Seigneur. Regardez 2 Timothée, chapitre 2 et verset 8. C'est étonnant de ce que l'homme de Dieu va dire à un autre homme de Dieu, on aurait tendance des fois à l'oublier, donc c'était un jeune qui débutait, donc là, à la charge d'une église, il dit « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. » Alléluia. Ici, l'exhortation, c'est « Souviens-toi ». Et constamment, nous devons nous rappeler, nous souvenir, donc mettre à notre pensée que, en fait, Jésus est issu de la postérité de David. Et là, ça n'a rien à voir, c'est pas laissé au hasard, c'est pour rappeler qu'il est l'envoyé de Dieu, celui que, finalement, tout pointait vers le moment où Jésus allait quitter son ciel de gloire, venir sur cette terre. Alléluia, la postérité de David. Et il ne s'arrête pas là, il est ressuscité des morts, parce que si Jésus était mort simplement à la croix du calvaire, alors ça aurait été, il y en a bien d'autres qui ont été, ont subi cette sentence terrible, à la croix du calvaire, parce que c'était un supplice, c'était quelque chose de terrible, abominable. Mais il y a un petit détail qui n'en est pas un, finalement, hein, qui est quelque chose de tellement fondamental pour nous, et le but que nous sommes là ce matin, c'est qu'il est ressuscité des morts, alléluia, il est vivant, il est au milieu de nous, et il vit en chacun d'entre nous. Ça, c'est miraculeux, extraordinaire. Il n'y a même pas eu un seul « Amen ». Vous avez perdu l'occasion de dire « Amen ». Et oui, parce qu'il est ressuscité des morts, il est vivant, il vit dans nos cœurs. Et il dit « Selon mon évangile, selon ce que j'ai pu annoncer, alléluia ». Souviens-toi, donc, le terme grec, c'est être attentif, ne pas avoir la tête dans les nuages. Certains rêvent leur vie au lieu de vivre celle que Dieu leur a donnée. Certains disent, ils poursuivent peut-être un certain idéal. Mais être attentif, c'est également se souvenir, parce que nous avons une tendance naturelle à oublier. C'est également rappeler à l'esprit, c'est-à-dire constamment, le Saint-Esprit va rappeler à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous lui appartenons, alléluia, et ça, constamment. Alors ça réjouit notre cœur, hein. On n'est pas ballotté ni à droite ni à gauche, parce que nous savons en qui nous avons cru, au Dieu vivant et vrai, amen. Souviens-toi veut également dire avoir en mémoire, c'est-à-dire avoir déjà enregistré ces choses-là, afin qu'au moment opportun, je puisse m'en souvenir, dans les moments difficiles, parce qu'il y en a toujours, les moments où j'aurai besoin de secours, ben je vais me rappeler combien le Seigneur a été bon et combien il le sera. Et donc, ça me remplit de confiance et d'assurance. Amen. Et également, garder à l'esprit comme un bien précieux. Se rappeler constamment. Se rappeler. Et j'aime bien, personnellement, dans mon culte personnel, me rappeler ce qu'était ma vie avant de connaître le Seigneur. Et quand je me rappelle ce qu'était ma vie avant de connaître le Seigneur, instinctivement, je ne peux pas m'empêcher de louer Dieu, de le bénir, de l'adorer, de dire « Seigneur, mais qui suis-je moi ?» pour que tu aies jeté un regard favorable sur ma vie. Alors je ne rentre pas dans une autre phase où je me pose sans cesse des questions. J'accepte simplement cette vie. Je me l'approprie et je dis, je suis un enfant de Dieu, je ne me laisse pas déstabiliser par quoi que ce soit. Alléluia. Il lui dit, donc l'apôtre Paul est en train de lui dire, souviens-toi de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu qui nous a été promis, et donc d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est cette déclaration qu'il va faire. Jésus va faire cette déclaration, je suis avec vous tous les jours. Alors des fois, quand il semble que ça aille plus ou moins bien dans nos vies, on ne se pose même pas la question. Mais dans les moments difficiles, il faut que nous puissions avoir cette réaction de dire « Seigneur, tu es avec moi jusqu'à la fin du monde. » N'oublions pas que sans lui, l'humanité tout entière est perdue. Tout a toujours rapport avec Jésus. Ne perdez pas donc la mémoire et poursuivez la tâche qu'il nous a confiée sans relâche. Alléluia. Vous voyez, au niveau des pensées, j'aurais pu prendre ce verset également, d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et que nos pensées soient constamment en direction du Seigneur. Se rappeler combien il est bon, combien il le sera encore et toujours. Évidemment, quand on parle d'organes vitaux, on ne peut pas s'empêcher de penser au cœur. Et notre relation avec le Seigneur, c'est une histoire de cœur, cet amour qui a été déversé. Le cœur, nous savons qu'il a été corrompu. Il a été corrompu par le péché. Ce péché qui nous enveloppe si facilement. Vous avez remarqué, on n'apprend pas à nos enfants, dans l'éducation, à faire le mal, à dire non, à être méchant. Et pourtant, c'est ce qui vient spontanément. Pourquoi ? Parce que cette nature, elle est en chacun d'entre nous. Donc le cœur a été corrompu et c'est la source du péché. Genèse chapitre 6, verset 5 nous dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Dites-moi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Toujours pareil. À un moment donné, il y a eu un arrêté de Dieu. avec ce moyen de salut, de délivrance, moyen de, étonnant pour nous, avec un regard de chrétien du 21e siècle. Et le Seigneur va dire, ben, construis une arche à Noé. Alors une arche, s'il avait déjà plu, bon, ça aurait été normal. Il n'avait pas encore plu sur la terre à ce moment-là. Puis, voilà, on sait que la corruption est là. Et la corruption envahit les cœurs. Et quand on voit ce que le péché fait dans les vies, les conséquences du péché dans les familles qui sont détruites. Et il y a quelque chose qui vient un peu comme une sainte colère dans mon cœur quand je vois que déjà, il y a des enfants qui n'ont pas commencé à vivre et qui sont déjà brisés par les conséquences du péché. Alors on doit pouvoir se lever et dire, Seigneur, sauve, restaure, guéris, fais-toi connaître, sers-toi de nous, Seigneur, et pas simplement être assis en attendant le retour de notre Seigneur. Le cœur, Dieu veut le régénérer, c'est-à-dire le ramener à la vie. Ézéchiel 11, verset 19, ce verset, il est extraordinaire car il est dit, « Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai leur corps, le cœur de leur corps, le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » Au travers de ce verset, ce que je remarque, c'est que ce n'est pas par l'attribution de quelques mérites que le Seigneur va nous être favorable. Il dit, « Je leur donnerai. » C'est un don de la part de Dieu. Un même cœur. Et je mettrai, c'est lui qui viendra, il mettra en vous un esprit nouveau. Mais pour cela, il est dit, « J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, je leur donnerai un cœur de chair. » Alléluia, que Dieu soit béni, parce qu'il a changé notre cœur. Notre cœur a été bouleversé donc, par rapport à cette nature. Et désormais, nous avons un cœur de chair, c'est-à-dire qui est malléable, qui n'est pas dur comme de la pierre. Parce qu'ici, c'est l'exemple qui nous est donné, hein, cœur de pierre, un cœur insensible. Nous avons cette sensibilité à Dieu, la sensibilité au Saint-Esprit. Mais on a besoin encore que le Seigneur nous rappelle ces choses-là. Alléluia. Le cœur est le siège des sentiments et des émotions. Il peut y avoir de la joie. On voit dans 1 Samuel chapitre 2, verset 1er, une dame qui souffrait en secret. Une souffrance terrible dans son cœur. Combien de personnes sont comme ça? Avec des souffrances intérieures. Ils n'ont pas pris le soin d'en parler à qui que ce soit. Mais elle, c'était son cas. Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. » Alléluia. Donc elle était dans la souffrance. Elle va faire cette prière au Seigneur. Le Seigneur va lui accorder, va exaucer sa prière. Et ici, elle est en train d'apporter donc cette joie qu'elle avait dans son cœur, de lui apporter au Seigneur en disant « Ma force a été relevée. Mon cœur se réjouit à l'Éternel. » Ce matin, il a été question de joie. Un chrétien, il est joyeux. Joyeux au fond de lui. Est-ce que ça sous-entend que même quand ça ne va pas, on doit quand même se réjouir de tout? Ce n'est pas ce que dit la parole. Mais c'est de se réjouir de cette joie qui dure, malgré ce que l'on peut traverser, problèmes, difficultés. Mais il y a une joie qui demeure. Et elle avait vite compris, hein, donc le siège des émotions, le cœur, elle était dans la joie, elle se réjouit en l'Éternel. Le cœur, ce qu'il y a à l'intérieur, ces sentiments de joie, de reconnaissance, d'amour pour le Seigneur, nous devons précieusement le garder. Quand on parle de cœur, évidemment, hein, il y a ce verset qui nous vient spontanément de Proverbe 4, verset 23, où il y a cette exhortation, ce conseil. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Alors la question est celle-ci. Quel est l'état de notre cœur? Est-ce qu'il reste à l'état de pierre? Et peut-être qu'il y a au milieu de nous quelqu'un qui a besoin de cette transformation divine pour que le cœur change, afin, comme on l'a vu dans Ézéchiel, qu'on puisse recevoir ce cœur nouveau, alléluia, qui est sensible à l'amour du Seigneur. Ce cœur, est-ce qu'il se porte bien? Est-il en bonne santé? Quel est son comportement? Quelle est son attitude? C'est des questions que l'on doit se poser. Matthieu, chapitre 5, verset 8, nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur ». Il y a une promesse qui est pour nous là, ce matin. « Car ils verront Dieu. » Amen. Est-ce qu'on réalise ce matin que nous allons voir Dieu? On va le voir face à face. Moi, je ne sais pas. Moi, ça me dépasse complètement. Je n'arrive pas à le, si j'ai de l'imagination, mais à un moment donné, elle va être bloquée par la nature humaine. Voir Dieu face à face, ça va être un moment extraordinaire. Alors oui, c'est pour ça qu'il est parlé d'être heureux, ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur, c'est le cœur qui a été purifié. C'est le cœur qui a été régénéré. Alléluia. C'est cette naissance d'en haut. Amen. Et cette naissance d'en haut, le Seigneur veut l'accorder à chacun et à chacun d'entre nous. Amen. Alors, on a vu les pensées, la tête, on a vu le cœur. On pourrait partager également sur les poumons. Les poumons, c'est le principal organe du système respiratoire. Et quand on parle de respirer, on parle de souffle. On parle de souffle de Dieu. On parle de l'esprit de Dieu, en hébreu roua et en grec pneuma. Dans Genèse, on retourne à la Genèse, chapitre 2 et verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Il y a en chacun d'entre nous le souffle de Dieu qui nous a ramenés à la vie. Alléluia. Évidemment que quand on parle de souffle, pneuma, ça nous fait penser à la promesse de l'envoi du Saint-Esprit. Jean, chapitre 14, verset 16 à 18. C'est Jésus qui parle et qui dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera. » Regardez, encore une fois, c'est un don. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. Et nous qui sommes au bénéfice, qui avons été donc immergés, plongés dans l'esprit du Seigneur, on comprend ces choses-là. Une chose est certaine, c'est que quand Jésus a fait cette déclaration, et les disciples ont dû se dire, mais il est en train de nous dire quoi? Vous ne comprenez pas, hein? D'ailleurs, il va leur dire à un moment donné, ce que je vous dis, vous ne le comprenez pas pour le moment, mais à un moment donné, vous le comprendrez. Alors, on bénit le Seigneur parce qu'il nous a donné un autre consolateur. Et c'est la particularité de l'Esprit Saint, c'est qu'au préalable, il est appelé donc l'Esprit de consolation. Parce qu'on a besoin de consolation. On a besoin d'être consolé. Quand on traverse des moments difficiles, on aurait dû rentrer vendredi matin, et puis milieu de semaine, reçu un appel où, dans une famille, il y a eu deux décès le même jour. Ce sont des moments difficiles. Moi, je n'avais jamais assisté à ça. Et donc, vendredi, du coup, on est resté. Je suis resté. Donc, je me suis déplacé. Et parce que je connaissais, il y avait donc une mamie que le Seigneur a repris auprès de lui, 94 ans. Et puis, il y avait le beau-fils qui était là. Ils sont morts le même jour. Et le pasteur, il a amené deux messages. Il y a eu un moment où, pour la mamie qui était là, consoler la famille. Et puis, On est sorti, 10 minutes après, on est re-rentré pour encore officier. C'était quelque chose d'assez lourd, d'assez difficile. Alors, pas pour le premier, parce que le premier, c'était la sœur, hein, la mamie, 94 ans, elle a franchi la ligne en vainqueur, et maintenant elle est auprès du Seigneur. Il lui tardait, hein, chaque fois qu'on pouvait l'appeler, elle disait, il me tarde d'être auprès du Seigneur, je ne comprends pas pourquoi le Seigneur me laisse là encore. Alors, évidemment, hein, on dégaine la réponse classique, c'est parce que peut-être le Seigneur veut vous utiliser d'une manière ou d'une autre, ou on ne sait pas, est-ce que vous avez tout réglé dans votre vie, voilà. Hein. Et donc, voilà, la première partie, bon voilà, on sentait quand même la paix de Dieu. Mais la seconde, voilà, c'était quelqu'un d'assez jeune, hein, d'assez jeune, où il ne répondait pas, quelqu'un s'est déplacé, retrouvé là dans sa baignoire. Quelque chose qui est terrible. Hein. Alors la famille qui est là, ben, il y a eu un message de consolation qui a été apporté par le Dieu de la consolation. Alléluia. Alors je vous dis ça hein, pour déjà, par rapport à ce qu'on est en train de partager, parce que voilà, c'est le consolateur, il y a besoin du Saint-Esprit pour toute cette famille, et ça nous donne l'opportunité aussi de penser à eux dans la prière, afin qu'il y ait donc des cœurs apaisés par rapport à la douleur et à la perte qu'il y a eu du bien-aimé. Oui, le Saint-Esprit, le souffle, il vient pour consoler, et nous avons besoin de consolation. Peut-être quelqu'un au milieu de nous ce matin a besoin d'être consolé. Alors, pour faire cette prière au Seigneur, « Seigneur, viens consoler mon cœur. Viens m'inonder de ton Saint-Esprit. » Et le Saint-Esprit va venir, donc, consoler nos cœurs. Et il sera, j'aime beaucoup, éternellement avec vous. Ce n'est pas pour un temps. Éternellement avec vous, le Saint-Esprit. Amen. Jérôme a commencé à le lire tout à l'heure. Il y a eu l'accomplissement, hein, à un moment donné, acte 2. L'accomplissement de le jour de la Pentecôte, acte 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu, c'est très important ça, en préambule. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oh, combien ça a dû être un moment extraordinaire, hein, ces moments-là. Donc la promesse, là, elle est accomplie. Mais au préalable, il fallait que Jésus quitte cette terre, qu'il aille donc rejoindre la place qui est la sienne, et donc pour l'envoi du Saint-Esprit. Et moi, je bénis Dieu pour le baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langue que le Seigneur nous donne. Souvent, ceux qui recherchent le baptême dans le Saint-Esprit, il y a toujours une part où on se dit, mais comme si on le mérite ou qu'on ne le mérite pas. En fait, c'est un don. Et c'est à nous à nous emparer, à le croire et à le vivre. Et il y a une différence quand on est plongé, immergé dans le Saint-Esprit. Et une fois que nous sommes remplis de ce Saint-Esprit, nous avons une responsabilité. C'est d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. Et vous allez voir que dans une église où les membres qui en font partie sont remplis du Saint-Esprit, les problèmes commencent à diminuer. Parce qu'on raisonne avec une mentalité du ciel. Éphésiens, chapitre 5, nous dit, c'est encore lui, l'apôtre Paul, qui nous dit, chapitre 18, vous connaissez ces versets, hein, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » Par contre, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Comment, ici il donne, voilà comment faire, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alléluia. Une fois qu'on a été plongé, immergé dans le baptême du Saint-Esprit, notre responsabilité, c'est de nous entretenir. C'est pas voilà, quelqu'un d'autre qui doit le faire à notre place, mais c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Quand Par exemple, si on prend un contenant, une bouteille d'eau, si on la remplit pour éviter que, par un effet, on va dire, normal, d'évaporation, si on veut empêcher que ça puisse diminuer, il faut constamment être rempli et devenir à la source, venir dans la présence de Dieu en disant « Seigneur, j'ai besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit, alléluia ». Peut-être qu'il y a quelque temps, mon frère, ma soeur, que tu n'as pas été renouvelé dans le Saint-Esprit, renouvelé dans la présence de notre Seigneur. Et ce matin, voilà, dans un moment de sincérité, de transparence devant le Seigneur, parce que le Seigneur connaît nos cœurs, en disant « Seigneur, j'ai besoin d'être renouvelé encore et toujours ». Et quelqu'un qui a été renouvelé dans le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est frais. Et quand on est frais, alléluia, alors ça donne du goût, on l'a vu un certain mardi, ça donne du goût à ceux qui peut-être ont des difficultés, dire mais ce frère, cette sœur, est toujours la joie, est toujours rempli du Saint-Esprit, toujours une parole d'encouragement, je veux lui ressembler. On avait vu aussi, te ressembler Jésus, mais également l'apôtre Paul, il va le dire, soyez mes imitateurs. Alors on pourrait dire, nous, oh là là, quelle arrogance. En fait, pas du tout. Quand il dit, soyez mes imitateurs, en fait, c'est ce qu'il est en train de dire. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, on va vite s'apercevoir que finalement, les petites broutilles, les petits os à ronger, on va les laisser. C'est-à-dire, mais ce sont des choses qui sont tellement futiles, je ne veux même pas m'en soucier. Ne vous enivrez pas de vin, s'enivrer de vin, c'est l'esprit du monde. C'est de la débauche. Mais soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Alléluia. Et c'est l'exhortation pour nous ce matin. Soyez remplis du Saint-Esprit. Puis, il y a également le foie. Dans ces organes vitaux, où on a besoin de regarder, faire un bilan. Le foie, à quoi sert-il? C'est un véritable filtre. Le foie, il récupère et élimine de nombreuses toxines. Alors je ne suis pas en train de faire un cours sur l'anatomie, mais c'est juste que j'ai pu vérifier. Et j'ai été stupéfait de savoir qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard, en fait. Avec le Seigneur, même dans les choses qui nous semblent tellement logiques. Moi, quand je vois que voilà, il y a besoin de filtres, et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de filtrer les choses. Avec tout ce qu'on entend, à droite et à gauche, les fausses doctrines et les faux docteurs. Et des fois, on serait surpris. Une fois, je l'ai fait dans une réunion de prière. J'ai sorti tous ceux que l'on peut voir, les têtes d'affiche sur les réseaux, ceux, leur message, ceux qui sont en train de diffuser. Certains ont été étonnés. Ils disent, mais je délivre de telle personne et de telle personne. Ils disent, oui. Parce qu'en général, on ne va pas venir vous voir et vous dire, voilà, je suis un faux prophète. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ressemble à un vrai prophète, mais à un moment donné, il y a une partie qui n'est pas dans la parole de Dieu. Et c'est là où on a besoin du Saint-Esprit pour pouvoir discerner ces choses-là. On n'est pas meilleur que qui que ce soit. C'est simplement que si on est proche du Seigneur, si on est proche de sa parole, on va pouvoir le discerner de loin. On ne va pas se laisser avoir facilement. Que le Seigneur nous aide dans ces moments troublés. Aujourd'hui, tout le monde se proclame évangéliste. Tout le monde se proclame prophète de ceci, prophète de cela. Moi d'ailleurs, j'ai quelques difficultés. On m'a posé la question, justement, à un repas de Noël, quelqu'un qui était là et qui me disait, qu'est-ce que tu penses, j'écoute quelqu'un, prophète un tel. J'ai dit, fuis. Je ne connais pas, je ne le connais même pas. Je dis, fuis, quand déjà on vient avec un titre. Ce n'est pas moi qui dit que je suis prophète. C'est les gens qui reconnaissent. Et si je le suis, ça va me garder dans l'humilité. Et je ne vais pas m'afficher en disant je suis le prophète un tel ou un tel. Je n'ai pas besoin de reconnaissance humaine. Mais il y a un fruit qui doit pouvoir se voir. On a besoin de filtrer. Le foie constitue également une réserve de vitamines. Alors, je regardais, vitamines A, D, E, K. Toutes ces vitamines, on en a besoin. Et surtout en plein hiver, n'est-ce pas? Vous serez d'accord avec moi. Certains prennent des compléments, je ne sais pas, de vitamines. La meilleure vitamine, vous savez quelle c'est? C'est la parole de Dieu. Eh oui, Elle nourrit notre cœur, elle nourrit notre âme. Amen. Oui, donc le foie représente la parole de Dieu, est détoxifiée face à ces fausses doctrines. Cette parole de Dieu, elle assure l'apport des éléments dont nous avons besoin. Le psaume 119, verset 105, nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Alléluia. Cette parole, elle vient se déposer au fond de notre cœur. Et dans les moments difficiles, dans les moments que l'on peut traverser, ou que quelqu'un d'autre traverse, on peut citer la parole de Dieu, dire « Mais Dieu est fidèle, Dieu est bon, confie-toi en lui. » D'ailleurs, la majeure partie des conseils pastoraux, on va dire, c'est cela. On n'invente rien, si ce n'est « Confie-toi à le Seigneur, cherche le Seigneur, approche-toi de lui. » Et le Seigneur, donc, va agir dans ta vie. Et puis, je vais terminer par là. Dernier organe vital, c'est les reins. Les reins, ça peut paraître anodin comme ça. Pourtant, la Bible en parle. On l'a lu déjà dans le psaume 26. C'est quoi le rein? Le rein, se situe au milieu donc, de l'être humain. Et ça nous parle de l'équilibre. L'équilibre, on en a besoin. Parce que quand on côtoie certaines personnes, un jour, ils sont euphoriques, et le lendemain, ils passent devant vous comme si vous n'existiez pas. Besoin d'équilibre à tous les niveaux. L'équilibre et la stabilité. La stabilité, la définition, c'est qui est dans un état, une situation ferme, solide, qui ne risque pas de tomber. Et l'exemple, c'est un édifice stable. Que nous soyons de ceux et de celles qui sont stables. Il y a plusieurs formes d'instabilité. Instabilité du caractère, c'est ce que je vous disais. Instabilité des sentiments. Il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu. Il y en avait un qui, au niveau des sentiments, qui avait besoin, qui avait quelques difficultés. C'est notre brave Samson. Au niveau des sentiments. Et puis, l'instabilité spirituelle. Et dans cette instabilité spirituelle, il y a l'exemple du peuple du Seigneur, Israël, et l'homme de Dieu, le prophète, va venir avec un message tellement percutant. C'est sûr, on a entendu déjà prêcher sur ce verset, mais quand même quelque chose, il vient avec ce message. C'est autre chose que le Seigneur veut développer ton potentiel. Le Seigneur veut t'utiliser tel que tu es. C'est autre chose. Regardez le message du prophète. 1 Roi 18-21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Point d'interrogation. « Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et ça, c'est terrible. Parce qu'une réponse est exigée ici. On a besoin de répondre quelque chose. Le peuple ne répond pas. Regardez le message quand même. Pas dit, brosse pas dans le sens du poil. Mais jusqu'à quand vous allez clocher, en fait? Moi, je bénis Dieu parce qu'en fait, la parole de Dieu, elle sert également à trancher. Souvent, on aurait tendance, cette même parole, et on le voit un peu partout, les messages, ils brossent toujours dans le sens du poil. Alors, j'ai rien contre, évidemment. Voilà. C'est à un moment donné, Dieu est amour, on le sait, merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais à un moment donné, le Seigneur nous dit également de se charger de sa croix, qu'il y a des choses que le Seigneur ne tolère pas dans nos vies, qui ont besoin de disparaître. Et peut-être que c'est un objectif pour quelqu'un ou pour plusieurs d'entre nous en cette nouvelle année. Et Seigneur, je veux devenir meilleur. Je veux aller de l'avant. Et je ne veux surtout pas clocher des deux côtés. Un coup à gauche, un coup à droite. Et ça, c'est une position inconfortable. Vous avez déjà essayé de vous asseoir entre deux chaises? C'est vraiment inconfortable. Et des fois, on le voit. Moi, j'aime beaucoup la clarté de la parole de Dieu parce qu'elle nous montre des frères, des personnes qui, à un moment donné, étaient dans une mauvaise position. Le Seigneur est intervenu pour rectifier, dire, mais là, tu es en train de clocher. Et moi, je bénis le Seigneur parce que le Saint-Esprit va nous conduire dans la vérité et donc, il va nous empêcher de clocher des deux côtés, mais que nous retrouvions de la stabilité. Et puis, il y a les Galates. Alors, les Galates, eux, ils vont étonner l'apôtre Paul, ils vont l'étonner. Galates 1, versets 6 à 9. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je te le répète, à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Des paroles fortes. Mais je suis étonné, en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des choses étonnantes. Des personnes qui ont fait une belle confession, qui ont donné leur vie au Seigneur, qui sont passés de la mort à la vie, puis on ne sait pas, manque d'entretien, devenir continuellement, de se poser la bonne question, suis-je en bonne santé, je ne sais pas. Puis là, aujourd'hui, ils sont en train de prêcher un autre évangile. Que le Seigneur nous garde, nous tous, de prêcher le vrai évangile. D'annoncer le vrai évangile. Alors l'apôtre Paul, oui, il a été étonné. Mais que nous ne soyons pas de ce nombre, mais que nous puissions trouver le chemin de l'affermissement spirituel. Nous ne soyons pas de ceux et de celles qui clochent des deux côtés, mais que nous soyons stables. Alors stable, comment ? Stable, déjà, la définition du mot, je regardais, c'est s'appuyer, c'est se fortifier, c'est se renforcer dans la présence du Seigneur. Et si on fait ces choses-là, alors on sera dans la stabilité pour 2025. Le chemin de l'affermissement qui conduit à la stabilité, c'est être disposé à accomplir toute la volonté de Dieu. Il dirait, Seigneur, je décide d'obéir. C'est un choix. Hein. Je décide d'obéir. Regardez, deux chroniques. On va prendre une partie de deux chroniques, chapitre 20, verset 20. C'est le dernier verset. Le lendemain, ils se mirent à marcher de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, là, c'est cette partie qui nous intéresse, « Écoute-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Amen et amen. Voilà le chemin de l'affermissement. Alors, comment vous allez, les organes vitaux qui sont là, est-ce que tout fonctionne correctement? Si ce n'est pas le cas, le Seigneur nous dit de venir à lui. Et Ésaïe 53, 5, je ne l'ai pas mis, mais il est marqué, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Alors dans ces temps, ces derniers jours de l'année, faire un temps de bilan personnel. Où j'en suis. Et le Seigneur va parler à nos cœurs par son Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le Seigneur veut nous trouver en forme pour 2025. Alléluia. Parce que le Seigneur veut nous utiliser afin que nous puissions aller de l'avant, gagner des âmes les unes après les autres pour que sa gloire se manifeste dans cette ville de Toulouse, dans ce quartier. Alléluia. Et que le Seigneur puisse nous utiliser comme lui-même le voudra. À lui seul soit toute la gloire. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole. Seigneur, cette parole, elle est bonne pour nos âmes, pour notre cœur. Seigneur, il y avait cette exhortation, Seigneur, ce conseil, vraiment à faire un bilan. Seigneur, et nous voulons le faire, Seigneur, en cette fin d'année, un bilan, Seigneur, sur ce que nous avions entrepris, l'an passé, ces résolutions que, Seigneur mon Dieu, nous avions faites, Seigneur mon Dieu, ces résolutions où nous t'avons dit qu'il y avait des choses qu'il fallait améliorer. Seigneur, je ne sais pas dans quel état se trouve mon frère, ma sœur, mon ami qui est là ce matin, Seigneur, mais toi tu connais toutes choses. Seigneur, tu parles au cœur, tu les relèves, Seigneur mon Dieu, et qu'ils puissent être guéris, Seigneur, et que tout soit en place dans le bon fonctionnement, Seigneur, la pensée, le cœur, Seigneur, le foie, les poumons, Seigneur, toutes ces choses-là, pour la gloire de ton nom, Seigneur, nous bénissons ton nom, parce que ce que nous désirons, c'est encore que ta gloire se manifeste puissamment. Nous te disons, à ton nom seul soit toute la gloire, au notre Dieu, nous voulons te prier, Seigneur, pour tous ceux et celles, Seigneur mon Dieu, qui ont besoin, Seigneur, de retrouver une santé spirituelle, une stabilité, Seigneur, ceux et celles, Seigneur mon Dieu, qui n'ont pas été renouvelés depuis quelque temps, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent te rechercher, Seigneur, afin qu'il y ait un changement, une transformation. À toi la gloire, l'honneur. Merci, ô notre Dieu, pour ces moments que nous avons passés. Seigneur, conduis le reste de la semaine, bénis chaque famille, Seigneur, qui vont se retrouver, Seigneur, pour ce réveillon également, que ta bénédiction soit sur eux, Seigneur. Et nous te bénissons, Seigneur, pour toutes les familles que nous représentons ici. Et à toi, nous te donnons toute la gloire. Merci, ô notre Dieu. Amen.